Cap Vidange du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Cap Vidange New Wave, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais d'ici et d'ailleurs.
Bien, nous parlons aujourd'hui de la tuberculose chez les enfants. Quelles sont les causes et remèdes? Vous savez, les enfants peuvent être atteints de tuberculose à tout âge, mais ils le sont le plus souvent entre 1 an et 4 ans, d'après l'OMS. Cependant, cette maladie tue 140 000 enfants chaque année dans le monde, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Alors, quelles sont les causes et les remèdes contre la tuberculose chez les enfants et quelle est l'ampleur de cette maladie en République démocratique du Congo? Nous aurons toutes les informations avec notre invité, Dr Lukia Aketi, pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa. Encore une fois, bonjour docteur.
Bonjour Jody.
Alors, quelles sont les causes, généralement les causes de la tuberculose chez les enfants?
Oui, avant de parler des causes de la tuberculose chez l'enfant, j'aimerais revenir sur l'ampleur du problème, parce que si aujourd'hui on revient, l'OMS revient sur cette maladie, c'est parce qu'elle cause aujourd'hui un problème de santé publique. Vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, est le 9e pays au monde portant la charge de la tuberculose. Et c'est le 3e pays en Afrique qui porte le plus lourd tribut en matière de tuberculose. Donc, c'est un réel problème dans notre pays. Alors, si on dit qu'on porte le plus lourd tribut, ça veut dire que l'incidence de la maladie, le taux sur 100 000 habitants est l'un des taux les plus élevés au monde. L'OMS estime qu'on est à 325 cas pour 100 000 habitants, donc c'est un chiffre tout à fait énorme. Mmh. Et vous savez que les cas de tuberculose chez l'enfant représentent à peu près le dixième du cas chez les adultes. Donc méconnaître la tuberculose chez les enfants, c'est un peu loupé sur la prise en charge globale de cette pathologie. Mmh. Alors maintenant, revenons sur les causes, la cause de la tuberculose. En fait, c'est un microbe qu'on appelle le Mycobacterium tuberculosis, ou bien bacille de Koch. Généralement, à la cité, tout le monde parle de BK. BK, en fait, ça vient de cette abréviation de bacille de Koch. Voilà. Mmh. C'est l'agent principal. Il y a des agents secondaires. Il y a d'autres mycobactéries qui peuvent être à l'origine de cette maladie, mais c'est particulièrement le Mycobacterium tuberculosis.
Voilà. Et comment les enfants attrapent cette maladie? C'est parce qu'ils vivent avec les adultes qui en souffrent déjà?
Exactement. Donc, la maladie chez l'enfant, en fait, prouve le mauvais contrôle de la maladie chez l'adulte. C'est une maladie qui se transmet essentiellement par voie aérienne. Donc, lorsqu'une personne infectée éternue, cette personne libère des gouttelettes de fluge, donc des petites gouttelettes de salive qui contiennent donc ce microbe-là. Et c'est par cette voie-là qu'une personne proche d'un adulte malade qui va donc contracter la maladie. Et on sait qu'autour d'un adulte malade, on a environ 5 enfants. Et donc, la démarche de toutes les manières à faire quand on a un adulte malade, c'est d'inviter la famille, notamment les enfants, à se faire dépister. Voilà. Alors, vous savez, je dis, et là je reviens sur ça, sur toutes les maladies, pour toutes les maladies respiratoires, le moyen de prévention, en fait, c'est ça, c'est éviter de parler, de tousser ou d'éternuer à côté d'un enfant. Et quand une personne tousse, par exemple, la quantité de BK qui libère dans l'environnement équivaut à peu près à la quantité qu'il pouvait dégager lorsqu'il parlait pendant 5 minutes. Donc, c'est énorme.
Et comme l'enfant, son système immunitaire n'est pas très très développé, facilement il peut attraper la maladie.
Exactement. Alors l'enfant a un système immunitaire qui est encore immature. Donc il devient progressivement mature jusqu'à peu près à l'âge de 6 ans, ce qui fait de l'âge de 0 à 5 ans une tranche d'âge très vulnérable. De plus, vous savez que les enfants vivent à proximité des adultes. Un bébé est attaché à sa mère, à ses parents, aux adultes, parce qu'il doit se faire porter. Et donc voilà, le risque est plus accru. Je sais que vous allez me parler de la vaccination. vaccination qui existe dans notre pays depuis plusieurs années, c'est le BCG.
La vaccination des routines.
De routine qui se fait chez tout bébé qui naît. Mmh. Ce vaccin protège effectivement, mais il ne protège pas à 100% contre la maladie, mais il protège contre les formes graves de la maladie. Mmh. Donc le fait qu'un enfant ait été vacciné ne veut pas dire nécessairement qu'il ne fera pas la maladie.
Voilà. Donc vous, l'ampleur, vous avez dit, vous estimez à combien au total, à travers tout le pays, les nombres d'enfants souffrant de la tuberculose.
Oui. Alors si on prend toutes formes confondues, nous sommes autour de 12 à 15 000. Si on prend les nouveaux cas, parce qu'en matière de tuberculose, il y a des variables qui sont très spécifiques. Et ce sont ces variables qui sont comparables à d'autres pays. Mmh. Donc quand on prend les nouveaux cas qui ont, chez qui on a isolé le BECA, le bacille de Koch, nous sommes à 3500 et ne pensez pas que c'est un chiffre dérisoire. Il est très significatif en matière de santé publique.
Et aux cliniques universitaires, vous recevez aussi de temps en temps des cas des enfants?
Pas de temps en temps. À chaque consultation, j'ai des cas d'enfants infectés par la tuberculose. Et c'est là, quand vous vivez, vous savez, quand vous êtes en dehors des hôpitaux, vous ne vivez pas l'ampleur du problème. Mais je peux vous rassurer, je dis qu'à l'hôpital, à chaque consultation, j'ai des cas d'enfants avec tuberculose, toutes formes confondues.
Bien, nous avons en ligne Augustin Chabani de Kindou. Bonjour Augustin. Oui, quelle est votre question? La liaison n'est pas très bonne. Veuillez vous déplacer, peut-être que la communication va s'améliorer, Augustin. C'est fait? Oui, est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu parce que la communication n'est pas très très bonne.
Oui, je me déplace, je dis.
Voilà, allez-y. C'est bon, allez-y. Maintenant, vous pouvez poser la question. Non, elle n'est pas toujours bonne. En tout cas, essayez d'arranger ça, vous allez nous rappeler plus tard. Il est temps d'accueillir Gentil Lumano des Kananga. Bonjour Gentil.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à notre invité du jour, qui est notre docteur.
Oui, quelle est votre question?
Oui, je voulais demander à notre invité, si c'est bien en Afrique, la tuberculose est une maladie de la pauvreté. C'est une maladie qui empêche de s'échapper à la pauvreté par sa définition. Alors je voulais demander, parce qu'on parle du cas des enfants, notre invité nous a parlé que la tuberculose peut atteindre aussi les enfants de 2 à 4 ans. Alors je voulais demander, au niveau des laboratoires, pour connaître que ces multiples qui souffrent de la tuberculose, on passe par les examens de Crassia. On donne à un malade 3 fois les vocales pour nous accueillir les Crassia. Ça, c'est un patient à 10. Alors je voulais demander à notre invité, j'ai un enfant. Après avoir atteint, on a remarqué que l'enfant touche des 15 jours, on pourra lui amener à l'hôpital. Maintenant, comment on peut procéder à la recueil des crachats chez un enfant, parce que l'enfant ne peut pas nous donner les crachats pour examiner. Comment on peut procéder à cette étape pour accueillir les crachats à cet enfant-là? Alors, ma deuxième question est de savoir, il y a aussi les tuberculoses qu'on appelle tuberculoses ganglionnaires. Comment chez l'enfant
bien, Aubin et Congo de Mbandaka, bonjour.
Bonjour Monsieur Jeudi, bonjour aussi à notre invité.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Voilà, j'ai des petites préoccupations. Je voulais que l'invité nous dise un peu par rapport à aux transmissions de la maladie de mère à l'enfant, parce que il y a parfois des cas où maman est malade, hein, maman est malade, l'enfant n'est pas malade. Alors à ce moment-là, comment on peut faire pour protéger l'enfant? Et la deuxième question est celle de savoir que l'enfant n'est pas seulement porté par sa maman, il est vraiment porté par tout le monde. Alors, comment on peut arriver à identifier une personne qui est malade et qui est encore à l'état de l'incubation et la maladie ne sait pas vraiment se présenter donc publiquement. Donc, on ne sait pas vraiment identifier que cette personne est malade. Donc, la maladie est au niveau de l'incubation. Alors, comment on peut arriver à protéger l'enfant à ce moment-là? C'est ça au moins ma deux petites préoccupations, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, docteur Loukia.
Oui, ce sont des questions très, très pertinentes. Mmh. Je commence par la question de Gentil de Loumani. Gentil Loumani, s'il vous plaît.
Loumanou de Kananga,
voilà. Mmh. Alors, effectivement, la tuberculose est une maladie de la pauvreté parce que dans les pays en voie de développement, cette maladie est en voie de disparition. D'ailleurs, l'une des preuves, le vaccin n'est plus administré de façon systématique dans ces pays-là. C'est une maladie de la pauvreté parce que, vous voyez, je vous ai parlé du mot de contamination. Mmh. Donc, nous vivons dans des conditions de promiscuité, de concentration, de population. On vit dans des pièces cloisonnées, on vit à 5 à 6 dans une seule pièce non aérée. Donc là déjà je réponds à sa première sous-question, vous voulez protéger un enfant qui vit dans cet environnement-là, d'abord il faut réduire le nombre de personnes qui vivent dans une seule pièce et il faut correctement aérer les pièces. Les pièces doivent être doublement aérées et l'air naturel doit entrer et ressortir pour libérer ces bécas qui restent en suspension dans l'air. Et ça rejoint un peu aussi la question, déjà j'anticipe sur la deuxième question, comment protéger cet enfant? Je vais revenir sur certaines spécificités. Comment protéger cet enfant qui vit avec une personne, et c'est plusieurs personnes qui portent le bébé, on ne sait pas si cette personne est malade. Oui. Ben, l'un des moyens, c'est ça. On ne sait pas au début, la période d'incubation, elle est longue, entre 2 et 6 mois après la contamination, on peut ne pas manifester les signes. Ben, déjà, quand on tousse, on doit éviter d'être à moins de 1 mètre de distance avec un enfant. Et il faut aérer les pièces dans lesquelles on se retrouve.
D'accord. Et Gentil a dit tout à l'heure que pour faire l'examen, il faut recueillir les crachats. Mais là, auprès des enfants, comment ça se passe?
Ah ouais. Alors, il y a d'abord la question de Gentil sur la tuberculose ganglionnaire. Comment recueillir les crachats? Voilà, c'était ça. Effectivement, c'est la grosse difficulté. C'est même pour ça que la tuberculose est méconnue chez les enfants. Et c'est plus tard, après que l'enfant est passé dans plusieurs milieux, qu'on arrive à découvrir le problème de la maladie. Parce que, vous savez, pour poser le diagnostic de la tuberculose, il faut aller chercher des crachats qui viennent des poumons. La personne doit cracher. Un enfant de moins de 2 ans, par exemple de moins de 4 ans, ne sait pas cracher. Qu'est-ce que nous faisons indirectement? Nous allons chercher des crachats que l'enfant pourrait avoir avalé au réveil, lorsqu'un enfant est couché. Des sécrétions qui sont dans les poumons. Ce n'est pas la même voie que dans l'estomac. L'estomac, c'est une autre voie. Les poumons, ce sont d'autres voies. Mmh. Ces sécrétions remontent au niveau de la gorge. Et quand l'enfant au réveil tousse, il va avaler ses crachats. Ces crachats vont se retrouver dans l'estomac. La particularité du microbe de la tuberculose, c'est qu'il est résistant à l'acidité gastrique. Les autres germes sont déjà tués par l'acide gastrique, alors que ce microbe-là résiste. Et donc, nous allons, avec une sonde nasogastrique, nous allons recueillir ces crachats dans l'estomac de l'enfant et immédiatement, nous acheminons au laboratoire. C'est pour ça que lui, il a parlé des 3 pots qu'on donne aux patients adultes qui crachent le jour même, le lendemain au réveil et quand ils arrivent au labo, ils donnent. Mais pour les enfants, nous recueillons pendant 3 jours successifs parce qu'il faut prendre ces crachats du matin pour ce qui sont passés dans l'estomac pour avoir la chance en fait d'avoir un estomac vide qui ne contient pas d'autres aliments qui pourraient se mélanger avec ces crachats-là. Donc cet exercice est assez délicat. Et généralement, c'est un exercice qui est simple. Faire un sondage gastrique, c'est facile, mais en général, il n'est pas réalisé dans notre milieu. D'où la méconnaissance. Vous voyez, on a 10 000 cas, mais on n'a que 3 000 cas qui sont positifs. Ça veut dire que le reste, on n'arrive pas à poser le diagnostic parce qu'on n'arrive pas à recueillir le produit biologique nécessaire à poser le diagnostic.
Et la tuberculose ganglionnaire?
Alors, comme le nom le dit, c'est une tuberculose des ganglions. Vous savez, on a plusieurs formes de tuberculose. Et la tuberculose ganglionnaire, c'est en fait une tuberculose qui n'est pas pulmonaire. Cette personne-là ne va pas tousser. Mmh. Sa tuberculose va se localiser.
Donc le signe principal de la tuberculose,
ce sont des ganglions qui augmentent de volume.
Okay.
Mais il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs maladies qui peuvent donner la même chose. Encore hier, j'ai eu un enfant qui a sillonné partout parce que on pensait qu'il avait une tuberculose ganglionnaire, mais comme les cancers, les infections simples à d'autres germes peuvent donner une augmentation du volume des ganglions.
D'accord. Augustin, on va accueillir un auditeur et puis on va revenir aux autres questions. Augustin Chabani, vous êtes à Kindou, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité.
Oui, quelle est votre question?
Oui,
juste quelques petites questions. La première, c'est demander à l'invité de nous donner d'abord la tuberculose, c'est quoi? La définition de la tuberculose. La deuxième, qui nous donne la différence entre la pleurésie et une tuberculose pulmonaire. La troisième, qui nous donne d'abord le schéma spécifique du traitement d'une tuberculose chez l'enfant. Deux, la suite à prendre d'un enfant de, d'une mère qui tuberculose. On va faire quoi après la naissance? On va donner directement le médicament chez l'enfant, bien on va faire quoi? Qui nous donne aussi les germes en cause d'une tuberculose des corps vertébraux ou mal des potes. D'abord les germes en cause. Merci beaucoup, je dis.
Voilà, on comprend qu'il est du domaine. Hein. Augustin, Claude Missard, vous êtes à Issiro, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour l'invité.
Bonjour.
Quelle est votre question?
J'ai une petite préoccupation à soumettre à l'invité du jour par rapport au sujet. Alors, ma préoccupation va par rapport à la maison qu'utilise le, la personne souffrante de TBC. Alors, l'invité a dit que lorsque la personne touche, c'est là... contamine l'environnement. Je voulais demander à l'invité combien de temps que le, ces bacilles émettent pour céder ou pour mourir. Puisque vous voyez aussi des maisons qui sont utilisées par la personne qui est en tête de la tuberculose. La personne crache par-ci, par-là. Alors, ces crachats sont aussi contaminés. Combien de temps ces crachats peuvent mettre, qui sont contaminés, peuvent mettre pour que le, ces bacilles décèdent.
D'accord, merci Richard Kachai, des Kanyoka au Kasaï Central, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai deux petites questions à soumettre à l'invité. La première est de savoir, est-il permis à une personne adulte, oui, qui souffre de la tuberculose, de coucher avec sa femme? Et si tel est le cas...
Bon, aujourd'hui, Richard, aujourd'hui, on parle de la tuberculose chez l'enfant, donc pas oui. chez l'adulte. Oui,
j'arrive.
Oui, allez-y, d'accord.
J'arrive au travers ces processus que je pourrais aboutir à une question relative à l'enfant qui souffre de la tuberculose.
Mmh.
Ah oui. Est-il permis à cette personne-là de coucher avec sa femme? Si tel est le cas, est-ce qu'il pourrait-elle transmettre... lors de l'accouchement, la tuberculose à son enfant? Et quels sont les mécanismes de protection de cet accouchement-là pour que l'enfant ne puisse pas souffrir de la tuberculose? Deuxième question, c'est de demander, parce que bon nombre de parents qui souffrent de la tuberculose ont des bébés, et surtout généralement les mamans aussi. Alors, comment faire pour protéger l'enfant contre cette maladie-là qui se transmet surtout beaucoup plus par voie orale, comme l'invité l'a bien indiqué sur la chaîne de la radio Okapi.
D'accord, merci Richard Kachai. Docteur Loukia.
Oui, il y a eu beaucoup de questions. Augustin, en fait, lui reprend carrément toute la pathologie. La tuberculose, je l'avais dit, c'est une maladie contagieuse, infectieuse, parce qu'elle est due à un germe qui peut se contaminer d'une personne à une autre, et due donc au Mycobacterium tuberculosis dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle peut donc donner plusieurs formes, dont une forme dont il a parlé, qui est le mal de Pott, qui est une forme... en fait, le bacille de Koch, c'est ça sa particularité, commence toujours par les poumons, mmh. et à partir des poumons, si le système immunitaire n'est pas efficace pour limiter la maladie à cet endroit-là, cette maladie peut évoluer. Vous savez que un tiers de la population a déjà été en contact avec le BK. Étant donné que nous avons un système immunitaire efficace, ce BK reste dormant dans l'organisme et attend au moment où nous aurons un problème de baisse d'immunité pour une raison ou une autre, ce BK peut évoluer, donner une forme pulmonaire ou évoluer au-delà. Mmh. Le mal de Pott, c'est l'atteinte de la colonne vertébrale. Une atteinte de la colonne vertébrale qui donne une déformation de la colonne, donc due au même microbe, c'est le même germe, c'est le Mycobacterium tuberculosis qui cause cela. Alors, il voulait savoir quelle est la différence entre une pleurésie et une tuberculose pulmonaire. La pleurésie, c'est en fait une atteinte de la plèvre qui est l'enveloppe qui couvre les poumons. Donc, on peut avoir une atteinte du poumon lui-même, ou bien une atteinte de l'enveloppe. Et là, il y a du liquide qui se produit qui s'échappe et qui se constitue au niveau donc de cette enveloppe. Alors le schéma thérapeutique, je pense que c'est pas le lieu pour parler indiqué, du schéma thérapeutique. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les traitements, les médicaments. Donc nous dirons un mot là-dessus. Mais il y a une question que je pense tous les auditeurs ont posé et qui se rejoignent, c'est la tuberculose de la mère.
De
comment
la mère
à l'enfant,
oui.
Voilà. Mmh. Alors, une mère enceinte peut transmettre déjà la tuberculose à son bébé à travers le placenta, donc dans le ventre, quand il est dans le ventre de la mère. Un bébé qui naît d'une mère tuberculeuse, dès la naissance, on ne lui donne pas le vaccin, on procède à la recherche de la tuberculose chez cet enfant-là. Et si on a des possibilités de laboratoire, on prend le placenta et on va réaliser un examen, l'examen anatomopathologique, pour voir s'il y a des BK au niveau du placenta. Là, on se dit probablement qu'il y a le BK chez l'enfant. Alors, si l'enfant, il s'avère qu'en ce moment-là, l'enfant ne présente pas de signes de la tuberculose, cet enfant le met sous un traitement prophylactique, un traitement de prévention qui est différent du traitement thérapeutique. Il va recevoir ce traitement pendant 6 mois. Après les 6 mois, maintenant, on pourra vacciner cet enfant. Attends, on fera une fenêtre de 3 mois et puis on pourra vacciner l'enfant. Mmh. Mais la mère qui est infectée, c'est là une tuberculose simple, normale, ça veut dire non multirésistante. Cette mère doit continuer à allaiter son enfant. Mais on va donner à cette mère des masques. Elle va porter des masques pour éviter la transmission du BK de la mère à l'enfant. S'il n'y a pas de masque, on va lui apprendre à tousser ou à éviter de tousser lorsqu'elle allait, ou à éviter de parler ou d'éternuer en face de l'enfant. Elle aura le regard tourné de l'autre côté. Alors si la mère,
ce qui n'est pas facile, hein, docteur.
Ce qui n'est pas facile, c'est pour ça que le problème de la tuberculose chez l'enfant, c'est un problème complexe. Vous savez, une mère multirésistante, c'est une mère qui porte un BK qui est multirésistant aux médicaments. C'est chez cette mère-là qu'on demande la séparation avec l'enfant. Donc, on va trouver une nourrice qui va s'occuper de l'enfant le temps que la mère suit son traitement jusqu'à négativation des crachats.
Alors, Claude Miss, ça nous dit combien de temps le micro prend pour mourir?
Ah oui, il peut aller jusqu'à 6 heures en suspension dans l'air.
6 heures.
Jusqu'à 6 heures, oui. Ah, ça, c'est la moyenne. Mmh. Bon, bien sûr, il y a des études qui ont montré que le BK, bon, il peut, ça dépend aussi de la température, de l'humidité de l'atmosphère. Parce que ces gouttelettes, lorsque ça sèche, c'est là que ça maintient plus longtemps les particules dans l'air.
Alors, docteur, nous savons que les signes le plus évident de la tuberculose, c'est lorsque la personne tousse pendant plusieurs jours. Or, nous savons que les enfants ont plusieurs types d'étoux. Alors, comment arriver à identifier la maladie chez un enfant?
Bon, en général, le programme national de lutte contre la tuberculose dit, c'est d'ailleurs des panneaux affichés partout, quand vous avez une toux qui dépasse 2 semaines, allez vous faire dépister et allez rechercher la tuberculose. Nous, en pédiatrie spécifiquement, quand nous faisons l'interrogatoire, l'anamnèse des patients, nous recherchons la notion de comptage, nous recherchons la présence de la cicatrice du BCG, et si un enfant tousse, nous faisons systématiquement, quand nous faisons notre examen, nous avons une série d'hypothèses diagnostiques que nous évoquons en fonction de la toux. En général, une toux aiguë de moins de 2 semaines, elle est due à d'autres germes. Une toux qui traîne, généralement, elle peut être due à la tuberculose.
À la tuberculose.
Oui.
Alors, quel est le traitement maintenant approprié pour la tuberculose chez les enfants?
Ouais, le problème de traitement, je dis, vous savez, c'est depuis les années 50, 1950, que les premiers traitements étaient mis sur le marché. Et depuis jusque maintenant, en fait, il n'avait pas eu vraiment de fortes avancées. En fait, le traitement de la tuberculose est complexe parce qu'on n'a pas un seul médicament qui permet de tuer le germe. C'est un mélange de médicaments. En fait, on a une quadrithérapie durant la première phase. C'est déjà un traitement de longue durée. Pour la tuberculose simple, normale, le traitement est de 6 mois. Et pendant les 4 premiers mois, le patient reçoit 4 médicaments, mais heureusement aujourd'hui, les firmes pharmaceutiques ont réussi à réunir tous ces 4 médicaments dans un seul comprimé. Donc le malade prend son comprimé ou le nombre de comprimés selon son poids. Et donc ces médicaments contiennent 4 médicaments qu'il reçoit pendant 2 mois. Après 2 mois, on change, on passe à un traitement qui contient 2 médicaments que le patient va recevoir pendant 6 mois. Mais il y a des spécificités, des patients qui ont fait un échec thérapeutique, qui reviennent avec rechute par exemple, ils ont un traitement plus long, de 8 mois, et les patients qui ont une tuberculose multirésistante, ils ont un traitement beaucoup plus long. Ils étaient à 18 mois, 20 mois, 24 mois. Maintenant, on a des schémas courts. On parle des schémas de 9 mois chez les adultes, mais ce schéma n'est pas encore d'application chez l'enfant. Chez l'enfant, nous restons au traitement de 14 à 16 mois en cas de tuberculose multirésistante.
Alors, on sait que les enfants ont du mal à prendre les médicaments. Vous allez leur donner des comprimés, et ils vont pas les aimer, et puis ça, c'est très compliqué.
Et effectivement, je dis, et ça, c'est le véritable problème que nous avons toujours eu pour le traitement des enfants avec tuberculose. C'est des comprimés, il faut écraser, il faut trouver les bonnes doses, parce que chez les enfants, on donne le traitement en fonction du poids. Mais fort heureusement, lors du dernier congrès auquel nous avons assisté au mois d'octobre, à Cape Town, donc on a présenter des nouvelles présentations de médicaments adaptés aux enfants, adaptés d'abord aux nouvelles recommandations, parce que maintenant les doses des médicaments ont changé, ça a un peu augmenté, et en plus ces médicaments, ce sont des comprimés qui sont dispersibles, on peut les mettre dans l'eau, ça se dissout facilement et ça a un goût fruité,
un peu comme les effervescents,
mais là ça fait pas pshh, comme les effervescents, ça se dissout en douceur, et ça a un goût de fraise, et donc c'est plus facile maintenant de pouvoir traiter les enfants. Nous attendons à ce que ce traitement arrive dans notre pays.
Et ça prend 6 mois.
Et toujours 6 mois. Le traitement ordinaire est toujours de 6 mois. C'est pour ça qu'il faut bien poser le diagnostic, parce que mettre un patient sous un traitement de 6 mois, c'est pas une chose.
Et surtout un enfant, c'est pas facile.
Et surtout un enfant. Et il y a des restrictions. Vous savez, ce médicament, il se donne à jeun. Ça veut dire 1 heure à 2 heures avant et après. La personne ne devra rien manger. Imaginez un enfant qui doit téter, un bébé de 4 mois qui pleure, il ne devra pas téter, sa mère devra faire une restriction de, c'est pour ça que chez les enfants, nous mettons une limite de 1 heure parce que c'est assez délicat. On le donne le matin, tôt à jeun, quand l'estomac est vide. Et en ce moment-là, la métabolisation est complète.
Et le soir, c'est une fois par jour?
C'est une fois par jour, c'est le matin. Une fois par jour, ça c'est pour le traitement simple. Pour le traitement multirésistant, on ajoute des médicaments injectables, je dis. Le traitement injectable, sa durée c'est de 4 à 6 mois. Imaginez une piqûre tous les jours chez un enfant en intramusculaire avec beaucoup d'effets secondaires. Je vous assure, c'est pas facile du tout. Et la tuberculose chez l'enfant, moi j'ai dit chaque fois qu'il y a un nouveau cas, j'ai un pincement au cœur parce que je sais quelle souffrance cet enfant va peiner, non seulement l'enfant, mais les parents, la mère qui va essayer d'administrer les médicaments à l'enfant.
Moutaneux nous appelle de Kolwezi et Christian Massoudi de Kindu. Moutaneux, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, ma question est celle-ci. Je voulais savoir où pouvons-nous amener les enfants lorsqu'ils souffrent de la TBC. Sachant que le gouvernement a déjà ciblé des hôpitaux appropriés pour ces soins.
D'accord. Merci, Christian. De Kindu, bonjour. Christian, vous êtes à Kindu. Bonjour. Non, Christian, la communication est vraiment mauvaise. On ne sait pas vous écouter. Peut-être que vous pouvez nous rappeler plus tard. Moutaneux dit, où amener les enfants qui ont la tuberculose? Est-ce qu'il y a des structures de l'État appropriées qui prennent en charge ce genre de situation?
Là, on peut quand même dire coup de chapeau, parce que le programme national de lutte contre la tuberculose est bien organisé. En niveau, il y a le niveau primaire qui est le bureau central, il y a des niveaux secondaires dans chaque coordination provinciale. En fait, il y a 23 coordination au niveau du pays. Et puis, on a des centres de traitement. On a des CSDT et puis des CDT. Ces centres de traitement sont éparpillés partout dans le pays. Et en dehors de ces centres de traitement, partout dans les structures de santé, les gens sont formés aujourd'hui. Les médicaments existent. Donc, vous avez un enfant qui est malade, emmenez-le au centre de santé.
Il y aura
Pas seulement à l'hôpital général de référence, dans les petits centres de santé, vous emmenez, ces gens sont, il y a des gens formés, il y a des infirmiers, des IT, des infirmiers qui sont formés là-bas et qui vont accueillir ces enfants. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Il y a des laboratoires, qui sont à proximité de ces centres qui recueillent les produits biologiques qui peuvent faire le test. Les médicaments sont là, ils sont gratuits. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à emmener un enfant malade dans une structure de santé, quel que soit son niveau.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions avoir ces nouveaux traitements, hein, qui est les médicaments dispersibles dans l'eau et qui ont avec un goût fruité pour les enfants?
Ouais, bon, ça c'est le rôle du programme national avec ses partenaires. À Cape Town même, le PNLT était représenté et donc
lors de la 46e conférence mondiale
voilà,
sur les maladies du poumon
et la tuberculose, c'était essentiellement la tuberculose et donc elle sur place on lui avait posé la question, donc elle avait dit qu'elle passait la commande. Vous savez, il y a toute une procédure, hein. On fait des programmations de médicaments. Ce que nous consommons aujourd'hui, c'est des commandes qui avaient été effectuées en 2015. Donc, le temps de finir ceci, que les commandes arrivent, que tous ceux qui participent au paiement de ces médicaments le fassent. Bon, je pense que d'ici fin 2016, je pense que ce médicament sera disponible.
Mais avec les produits actuels, il faut les écraser, les couper en deux,
parfois en trois. Bon, c'est vrai qu'on a essayé de mettre des comprimés les plus faiblement dosés, mais si on a des enfants plus petits, il faut couper, il faut écraser, il faut mélanger avec un peu d'eau.
Mais est-ce que le dosage est correct?
C'est ça le problème. Et pour faciliter la tâche, ça c'est nous dans les structures de niveau tertiaire qui essayons de donner les doses exactes par rapport au poids, mais il y a des planches qui existent. Le programme a mis en place des planches par rapport aux tranches d'âge. Pour éviter de couper les comprimés, donc on fait d'à peu près, on a telle tranche à telle tranche de poids, voilà le nombre de comprimés à donner. Et là, ça facilite la tâche pour les infirmiers, par exemple, qui sont dans des structures primaires, périphériques, qui n'auront pas à faire des calculs difficiles. Donc, ils ont leur planche qui leur montre exactement ce qu'ils doivent donner aux enfants.
Et les parents doivent amener chaque jour cet enfant malade à l'hôpital ou bien ils peuvent quand même donner les traitements à la maison?
Oui. Donc, au début, on donne un traitement de courte durée pour s'assurer de l'adhérence au traitement, pour s'assurer de l'innocuité de ce traitement, parce qu'on doit vérifier s'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, on donne des traitements peut-être pour une semaine ou deux semaines, le malade revient, on s'assure qu'il a bien pris, qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire. Après, on peut donner des traitements, ça dépend de chaque structure, de chaque milieu. On peut donner des traitements de un mois, le malade revient après un mois pour récupérer ses médicaments. Mais il y a des contrôles obligatoires. Par exemple, le contrôle du deuxième mois, du cinquième mois sont des contrôles obligatoires où le patient doit rentrer à l'hôpital. On doit faire des examens. D'abord, pour être sûr que le microbe a été tué, et deux, pour voir s'il n'y a pas d'effet secondaire, d'effet nocif lié aux médicaments.
Et quels sont les risques si le traitement n'est pas bien administré?
Le problème, c'est ce que nous avons aujourd'hui, hein, la tuberculose multirésistante. Je vous dis que c'est un véritable problème. On a des bécailles qui deviennent résistants aux médicaments usuels. L'un des médicaments, les deux médicaments les bactéricides majeurs de la tuberculose, c'est la rifampicine et l'isoniazide. Quand on parle de la tuberculose multirésistante, c'est une tuberculose qui est résistante à ces deux molécules-là. Quand on a une résistance à ces deux molécules, il est difficile de soigner la tuberculose. Donc, on met un traitement de deuxième intention avec des médicaments autres que ces deux-là, dont les médicaments injectables. Donc ça, c'était entre
pendant
autres...
Pendant 6 mois.
Non, mais injectable pendant 6 mois, mais le traitement va continuer. Chez l'enfant, je vous ai dit, on est encore à 14-16 mois parce qu'on n'a pas de schéma court chez l'enfant.
Voilà. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui en décèdent aussi? Qui meurt de la tuberculose.
Ah oui. La mortalité, on l'a vu au début, hein. Dans le monde, on dit 140 000 décès par an. Chez nous, actuellement, je suis en train de réaliser une petite étude justement pour bien définir toutes ces données épidémiologiques de la tuberculose chez l'enfant. Parce que vous savez, que comme je disais à l'introduction, la tuberculose chez l'enfant, elle est tellement complexe, elle semble être négligée. Donc voilà, il faut que les gens, et je vous remercie beaucoup de pouvoir en parler aujourd'hui, parce qu'il faut que les gens se réveillent, qu'ils sachent que voilà, il y a une maladie qui tue et pour laquelle il y a des possibilités thérapeutiques si les choses sont dépistées à temps.
Donc d'où il faut prévenir, c'est la prévention.
C'est la prévention qui est vraiment importante. Je vous ai parlé du vaccin, le BCG, qui peut protéger, mais malheureusement, il ne protège pas à 100%. Aujourd'hui, vous étiez au congrès sur la tuberculose à Cape Town. J'en profite, jeudi, pour féliciter Radio Capi, parce que j'étais heureuse de voir un journaliste de Radio Capi assister, participer à un congrès international renommé. Et donc, ça, c'est une chose vraiment intéressante et encourageante pour nous. Donc,
Il faut prévenir.
Et donc, là-bas, on a montré des nouveaux vaccins qui sont en cours de recherche, enfin, qui sont en cours d'essai maintenant. Et bientôt, on aura des nouveaux vaccins qui seront probablement combinés avec le BCG pour renforcer donc la prévention. Ça, c'est côté vaccination. Mais deux, la prévention individuelle. Un, bien, ce que les gens devraient retenir, c'est qu'il faut bien aérer les maisons, les hôpitaux. Il faut cesser de se cloisonner. Vous vous cloisonnez avec une atmosphère frais en plus et sec. Vous facilitez la rétention du microbe dans l'air.
Même dans nos taxibus, docteur.
Même dans nos taxibus.
C'est pas très bien aéré.
C'est pas très bien aéré. Vous voyez, nous sommes collés un contre l'autre. Nous sommes à moins de 1 mètre de distance. Donc, si une personne tuberculeuse et qui
si elle tousse,
si cette personne tousse, exactement. Donc, on est tous en danger, exposés, voilà, à faire la maladie. Il faut ouvrir les fenêtres. Il faut aérer les pièces. Et si une personne tousse, cette personne devra à porter le masque. Pourquoi pas ne faire comme en Chine? Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Chine. Vous voyez, dès que vous arrivez à l'aéroport, vous êtes parfois scandalisé par le nombre des gens qui ont des masques parce qu'ils ont connu les plus grandes épidémies de grippe dans le monde. Donc, ils savent que ces maladies se transmettent par voie aérienne. Ils portent le masque. Quand on sait qu'on est malade, on ne doit pas se gêner de pouvoir porter un masque qui coûte 500 francs en pharmacie. Voilà. Donc, si on ne peut pas, on doit éviter... on doit tousser dans des conditions convenables. Ça veut dire tousser au pli du coude, du bras secondaire. Si on est droitier, on tourne la tête à gauche, on tousse dans le pli du coude gauche.
Mais si vous êtes maman, vous êtes malade, donc il faut donner votre bébé à quelqu'un d'autre.
Si vous avez une tuberculose multirésistante, parce qu'on sait quels sont les problèmes de prise en charge de la tuberculose multirésistante chez le bébé. Mais une mère qui n'est pas multirésistante doit continuer à allaiter son enfant, mais en toussant de façon correcte.
Bien, docteur Loukéa Keti, pédiatre clinique universitaire de Kinshasa, merci.
Je vous remercie, Jody.